France Culture.
Aujourd'hui, j'aimerais bien échapper à ma biographie. J'en accepte le point de départ, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir une vocation aussi biscornue apparemment.
Toute une vie, par Thomas Baumgartner, réalisé par Gaël Gillon, Pierre Schaeffer, Croire aux ondes.
Alors, nous allons refaire encore une fois l'appel.
Chanciou.
Présent.
Cousin.
Présent.
Favori.
Présent.
Ferrari.
Oui.
Parmigiani.
Oui.
De Possel.
C'est d'abord une voix, posée, calme, assez grave, mais pas trop, un alto. Une parole aussi, forcément, généreuse sans se presser, qui construit, qui joue, qui agence le sens. Celle de Pierre Schaeffer, homme de radio, de son, d'image, de texte, de livre, de traces, traces de lui-même, traces de ses travaux personnels ou collectifs. Schaeffer, c'est un homme de groupe, un chef de troupe, un inventeur, un chercheur, un transmetteur, un ancien scout, un catholique qui doute, un amoureux du théâtre. Un homme de musique aussi, bien sûr. Alors ici, on mettra de côté l'imposant héritage de son invention, la musique concrète, cette grammaire musicale inédite dont l'unité est l'objet sonore et qui fait le sujet d'autres émissions. Sans Schaeffer et ses recherches, France Culture, Radio France Internationale, Arte ou Lina ne seraient pas les mêmes. Il a pris le son, l'image et le public au sérieux.
Ça ne suffit pas, c'est terminé.
C'est un drôle de personnage, hein, quand même. C'est, Pierre Schaeffer, moi j'ai été quand même assez fasciné.
Thierry Garrel.
Figure de père, hein, évidemment. Figure de père pour tout le monde. Schaeffer, en plus, c'était le berger, le grand berger. Espèce de personnage avec un œil intelligent comme ça, mais qui prenait goût à ce collectif, cette espèce de phalanstère qu'il avait créé autour de lui. Les gens le craignaient en même temps. Il y avait, c'était pas une secte, hein, mais c'était une bande un peu. Et le chef de la bande, c'était le chef de la bande. Tous les vendredis après-midi, par exemple, il y avait réunion dans son bureau, et ça durait, et ça durait, et ça durait. La semaine se terminait, les gens voulaient rentrer chez eux, mais personne n'osait se lever, vous voyez, quand même. Et Schaeffer prenait un fin plaisir à rester avec sa pipe, à continuer à nous faire échanger sur des questions diverses et variées, vous voyez.
Cette séance consistera pour elle, auquel la même question sera posée dans 15 jours, une séance d'information et d'initiation à nos questions que nous posons.
C'est un lieu de rencontre. Les chercheurs qui viennent là, les gens invités par Pierre Schaeffer, on peut les croiser, on peut les rencontrer dans les couloirs et assister à des présentations de leurs recherches.
Robert Cahen.
Et c'est cette chose extraordinaire pour moi qui suis très jeune, hein, qui arrive à l'âge de 25 ans pour faire ce stage de musique concrète, d'être en face de personnes ayant déjà un grand métier. Je parle par exemple sur les réalisateurs qui sont là, ou les compositeurs que j'ai pu croiser. Pierre Schaeffer avait fait venir Xenakis, Stockhausen, et les compositeurs du groupe de recherche musicale qui sont là, François Bell qui dirige ce groupe de recherche musicale, sont des personnes que l'on peut approcher et qui sont impressionnantes pour le jeune homme que j'étais.
Nous sommes donc dans nos métiers de son et d'image aux premières loges d'une rencontre obligée,
Pierre Schaeffer,
entre les contraintes de la technique et en même temps que ses possibilités formidables et l'expression artistique. Bon, alors est-ce que c'est spécial dans le monde contemporain, à la radio-télévision? Est-ce que quand justement j'ai accédé à un niveau de réflexion plus général, mettons au service de la recherche, est-ce que j'ai pas été conduit par la main, par cette expérience professionnelle, pour généraliser ma réflexion au problème que pose la civilisation actuelle? Civilisation qu'on dit industrielle, certes, sûrement technologique, et où je vais retrouver le thème des deux précédents entretiens, à savoir si les machines que nous avons inventées nous mènent ou nous asservissent, ou si nous nous en servons.
On monte les escaliers. On va se retrouver bientôt dans le bureau de Pierre Schaeffer, sous les toits, avec une fenêtre qui donne sur le Palais Royal et la Comédie française. Et de l'autre côté, on pourra apercevoir le ciel et la Bibliothèque nationale. Au mur, des papillons épinglés et des tableaux nombreux. Sur les étagères, des pierres, des minéraux du bout du monde et des livres et des disques, bien sûr. Un vrai cabinet de curiosité lambrissé, un nid laboratoire mental au-dessus des toits de Paris qui laisse déjà deviner les multiples facettes de celui dont on raconte l'histoire. Jacqueline Scheffer, épouse de Pierre Scheffer.
Il avait un charisme inouï, il avait un charme extraordinaire, un charme, un vrai charme.
Quand il entrait dans la pièce, on s'en rendait compte?
Ah oui, et même, je vais vous dire, on reconnaît à une syllabe qu'on entendait à la radio, une seule syllabe suffisait pour reconnaître son grain de voix. Il avait une voix extraordinaire. Alors la voix, je vais vous en parler, je crois que c'est un enfant de la voix, parce que sa mère était chanteuse, et je crois qu'il a entendu la voix de sa mère, et la voix de sa mère qui faisait chanter ses élèves quand il était dans le corps de sa mère. Et ça, je crois que c'est très important. Le premier son, lui qui s'est tellement attaché au sonore, le premier son qu'il a entendu, c'était dans son bain amniotique sonore. Donc là, ça me paraît très important. Donc c'est un homme de la voix, c'est un homme du son, et c'est un homme du sens, parce qu'il n'a pas arrêté de chercher le sens. Comme les enfants qui sont souvent des jeunes philosophes et scientifiques, très tôt, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait, d'où on va, où allons-nous? Là, ils se posaient toujours cette question-là, et ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert? Bon, ça, c'était évidemment très important.
Mais ce qui comptait, c'était, j'allais dire, je me trompe sans doute, mais presque plus de poser systématiquement la question. La réponse, elle viendra, mais surtout poser la question.
Ah ben écoutez, comme les psychanalystes, ils posaient une question, ils répondaient à une question par une question. C'est là qu'on se retrouvait très très bien. La réponse, le malheur de la question, comme disait je ne sais plus trop qui.
La question point de départ de toute démarche de recherche. Le service de la recherche de l'ERTF, le service de la recherche est pendant 15 ans, de 1960 à 1975, l'espace d'expression de Pierre Scheffer, un espace qu'il a imaginé, un espace inédit dédié à des ambitions de recherche musicale, recherche technique et production de programmes pour la télévision. Un collectif bouillonnant dirigé par Scheffer. Thierry Garrel, ancien directeur des documentaires de La 7 et d'Arte France, évoque le service de la recherche de l'ERTF, où il est entré à l'âge de 20 ans pour en établir le catalogue.
Il y avait une activité collective régulière, c'était très ritualisé. Voilà. Il y avait une fois par semaine une réunion avec des projections et des débats, et donc avec aussi des invités.
C'était important de se penser soi-même, c'est ça, d'avoir une réflexion sur sa propre activité quand on est au service de la recherche.
Voilà. La philosophie du service de la recherche qui était mise en pratique, c'était un modèle réduit de la télévision même pour réfléchir à la fonction, aux usages, aussi à l'organisation et au chemin de création mis en place par un organisme de télévision. Donc c'était en à petite échelle, une télévision tout entière, on pourrait dire, mais avec un travail de conscientisation, on pourrait dire. C'était une espèce de réflexion permanente, c'était un atelier, on pourrait dire, permanent, où les membres et un certain nombre d'invités de temps en temps apprenaient à s'organiser. Il y avait une espèce de, chez Pierre Scheffer, une espèce de goût d'ingénieur, il était ingénieur aussi, et puis de vision sur les médias, sur l'avenir des médias et sur l'importance des systèmes de communication de télévision qui avaient, dans les années 60, explosé, étaient rentrés dans tous les foyers et dont on ne savait pas trop encore quoi faire et sur lesquels il n'y avait pas de vraie réflexion politique à l'époque. Moi, ça m'a frappé très très vite. Les politiques, ils s'intéressaient parce qu'on tendait le micro et qu'ils pouvaient causer dans le poste, comme on dit. Hein. Mais pour le reste, il n'y avait pas de réflexion sur les médias. Et les réflexions sur les médias en général, bon, il y avait eu McLuhan au Canada, mais Scheffer a été très vite à développer une réflexion sur le rapport entre une population et elle-même à travers un système de communication, entre des créateurs et des publics. Et donc, cet outil intermédiaire qui avait à l'époque une forme en plus monopolistique, hein, c'était le monopole, c'était la RTF en 60 devenue l'ORTF en 65, si je ne me trompe, qui cumulait l'ensemble des fonctions, si vous voulez, aussi bien de fabrication, de production, de programmation, de diffusion. Et donc, une espèce d'énorme appareil qui ne réfléchissait pas beaucoup sur ses modes d'organisation et surtout comment ces modes d'organisation déterminaient la nature des programmes qui étaient finalement proposés au public.
Or, je vous dis donc que les grands problèmes que nous avions étudié à la recherche, c'était celui-là, c'était celui de la décentralisation, de la constitution des réseaux, c'était celui des équipes pluralistes, c'est-à-dire que nous voulions, puisque c'était du temps de l'ORTF, nous avions démontré que l'équipe de la recherche qui gérait un budget et un personnel qui était environ le centième de l'ORTF, qui n'a jamais eu d'ailleurs d'ennui avec la hiérarchie, qui n'a jamais fait faillite, qui a toujours fait des émissions très économiques, hein, beaucoup plus économiques que d'autres services, nous disions, il n'y a qu'à fractionner l'ORTF en 100 cellules de production. Et comme on avait installé l'informatique, en plus, que l'informatique ne renseignait que le directeur général ou ses services financiers, mais jamais les intéressés, nous avons dit, c'est une informatique à rebours. Si vous faites de l'informatique pour recentraliser, vous faites une informatique ignoble. Si vous faites une informatique qui est associée à une décentralisation du pouvoir, vous redonnez du pouvoir aux petites parcelles d'organisation que vous autonomisez, et en même temps, comme l'informatique est très commode, vous avez quand même toujours l'addition générale qui peut permettre un contrôle, et l'informatique arrive à résoudre cette contradiction qu'on peut à la fois contrôler une masse très importante d'activités et en même temps décentraliser énormément l'autorité. Mais vous voyez, ce sont des idées qui sont extrêmement subversives, ce que je dis là, parce qu'elles ne vont, au fond, dans aucun programme. Ce sont des idées qui ne sont, oserais-je le dire, ni de droite ni de gauche. Vous voyez bien que je ne prêche pas l'autogestion, je n'y crois pas. Je ne prêche pas la centralisation et le contrôle de la hiérarchie. Je trouve qu'elle a fait l'épreuve de son inhumanité, de son incapacité à faire la meilleure vie possible. Je dis qu'il y a des solutions nouvelles. Je ne vois pas pourquoi on oblige les ingénieurs à faire des études si compliquées, si difficiles, à fabriquer des instruments comme ceux que nous employons qui sont si chiadés, comme on dit, et que les politiques restent toujours sur des solutions aussi stupides que la solution droite-gauche, que la solution hiérarchie et anarchie, que la solution, disons, marxiste ou capitaliste. Tout ça est dépassé.
Pierre Schaeffer avait négocié avec les autres chaînes, on pourrait dire, il y a eu la première et la deuxième qui a été créée, je crois, en 65, la fourniture tous les ans de 40 heures de programmes, qui étaient en gros le rendu de la recherche, et des programmes qui étaient des vrais programmes de télévision, ambitieux, de qualité, avec une vraie réflexion sur quel genre de programme le public de la télévision, les citoyens, méritent-ils. C'est comme ça que des très grandes collections comme Un Certain Regard, par exemple. Moi, je les ai découvertes toutes les émissions les unes après les autres, puisque je faisais le catalogue. Hein. Il y avait des boîtes partout, toute la collection Un Certain Regard, où il y a des portraits des grands contemporains, mais aussi bien que Lévi-Strauss, Roman Jacobson, Borges, etc. Des vrais films d'une heure, avec des vrais portraits approfondis, qui, je pense, ont aussi modifié le public de la télévision dans les années 60, en recevant des émissions de cette qualité-là, si vous voulez, qu'un vrai pari fait sur la curiosité et l'intelligence, finalement, du public. Je cite cela, mais il y a eu, je sais pas quoi, des collections comme les Grandes Répétitions. Personne n'avait fait des filmages extensifs de grandes répétitions de grands chefs d'orchestre. Je sais pas, Hermann Scherchen qui dirige l'Art de la Fugue, c'est monumental, hein, c'est pendant toutes les répétitions. Ou Maderna dirigeant Varèse, pareil, bon, voilà, il faisait des émissions comme ça. Et c'était pour la télévision, ces 40 heures de programme tous les ans, au-delà de tous les essais qui pouvaient être faits ici ou là, plus expérimentaux, étaient diffusés par la première chaîne et après par la deuxième chaîne.
Nous avons obtenu, et non sans mal, de nos collègues directeurs de chaîne, un créneau le dimanche soir, quand tout le monde était couché, ou bien que les gens qui avaient des maisons de campagne étaient sur l'autoroute. On nous avait donné le plus mauvais créneau. Nous avons passé pendant 10 ans, ces dimanches soirs, des messages fantastiques, je peux le dire sans fausse modestie, car nous avions les plus grands noms du monde, les plus grands savants, les plus grands philosophes, nous avions absolument fait la galerie des grands hommes, de même que André Voisin, de son côté, par symétrie, faisait la galerie des conteurs, des paysans, des vieux curés, des vieux médecins, qui avaient des histoires à raconter remontant à l'ancien temps. Nous avons donc fait cette double radio des génies populaires et des génies tout court. Elle passait le dimanche soir. Que je sache, le 0,5% auquel on a droit le dimanche soir était ravi. n'est-ce pas ? Tous les gens en parlaient, tous les gens étaient contents de cette télévision-là. Jamais nos collègues n'ont toléré que cette radio, cette télévision-là passe la rampe.
Certains pourraient dire que vous avez une démarche assez élitiste.
Oui, alors si c'est ça l'élite, je revendiquerai l'élite, évidemment. Parce que ça fait partie des mots tabous. Et, or, je vous dirais que les élites, il y a des élites partout, grâce à Dieu. C'est-à-dire que les élites, ce ne sont pas du tout des sélections de culture, des sélections d'instruction, des sélections d'argent. Il y a des élites parmi tous les gens. Il y a des idiots parmi les paysans, comme il y a des merveilleux types. Il y a des idiots parmi les ouvriers, comme il y a des ouvriers merveilleux de finesse. Il y a des idiots parmi les bourgeois. Et malheureusement, il faut bien dire que les chaînes de télévision ont plutôt été entre les mains de bourgeois que d'autres gens. Et les bourgeois ont toujours eu l'idée la plus bête possible sur le niveau qu'ils doivent donner à la culture de masse, permettez-moi de le dire.
C'était il y a très, très, très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme.
Qui dit recherche ne dit pas forcément écriture complexe, parce qu'il y a aussi des programmes comme les Shadok ou comme Tac au Tac, par exemple, le programme de dessin.
C'est plutôt l'idée que la télévision est un moyen de création en soi, parce qu'elle a ses propres possibilités imaginatives, si vous voulez. Donc oui, Tac au Tac de Jean Frappa, par exemple, en faisant dialoguer des humoristes, des illustrateurs humoristes, c'est une idée formidable. Vocation, Pierre Dumayet, faisant des portraits de gens sur leur vocation, d'abord avec une caméra cachée, et ensuite en caméra ouverte. Et puis reprojetant à ces interviewés ce qu'ils avaient dit dans leur quand la caméra était censément fermée, voyez, des espèces d'expérimentations jubilatoires quand même, hein, du spectacle, mais un spectacle de l'intelligence, disons, voilà, spectacle de l'intelligence. De l'autre côté, vous citez les Shadok, bon, ça c'est 68, si je ne me trompe, même. C'est grâce à cette petite machine mise au point, comment il s'appelait ?
Il s'appelait Jean Dejoux.
Son nom. Enfin, il y avait un secteur de recherche, Francis Coupigny, qui travaillait sur les équipes. Il y a un type qui a inventé l'animographe, bon, pour pouvoir faire très facilement de l'animation avec un petit rhodoïde qu'on changeait image par image. Et ça a donné, avec Rouxel, donc, qui a à la fois écrit les histoires, créé ces petits personnages de Shadok qui étaient des espèces de. Des films très courts, 2 minutes comme ça, mais qui étaient diffusés en prime time, hein, à la télévision, et qui a été un phénomène de société, qui était un univers un peu foutraque, un peu, contestataire, anarchiste, on pourrait dire. D'ailleurs, quand je dis anarchiste, c'est drôle parce que très vite, quand j'ai écouté les enregistrements des réunions du service de la recherche, Pierre Schaeffer faisait enregistrer les réunions. Dès les premières réunions, il y a Pierre Schaeffer, il y avait la voix, donc moi je l'avais isolé parce que je faisais des montages de ces émissions historiques, on pourrait dire, pour justement faire écouter dans les séminaires hebdomadaires aux nouveaux entrants ce qu'était le service de la recherche. Il y avait la phrase qui disait « Profondément, nous sommes les anarchistes de la RTF ».
Robert Cahen, artiste vidéo, compositeur, ancien responsable de la vidéo expérimentale au service de la recherche.
J'ai été évidemment impressionné sur la vie de ce service et sur le côté grande famille. Et c'est à la fin de mon stage de 2 ans que j'ai eu cette idée de proposer à Pierre Schaeffer et au service des programmes de pouvoir faire un film sur ce service de la recherche en le nommant Portrait de famille, parce que je me sentais faire partie de cette famille, et Pierre Schaeffer était devenu pour moi un peu un père symbolique, et je voulais régler un peu cette histoire de père symbolique et de vérifier auprès des gens qui travaillaient là, que ce soit les chercheurs, les techniciens, l'ensemble du personnel qui était présent, de vérifier avec eux comment ils vivaient ce lieu. Et donc, c'est en faisant des photographies, des portraits, et des gens en train de travailler, je récolte plusieurs centaines de photographies et je les remets à ces différentes personnes pour qu'ils réagissent en voyant ces photographies à la question de Pierre Schaeffer, son service et ce qu'ils y font et comment ils vivent ça. La question du père, il y a Annette Suffert qui était une personne qui s'occupait de la communication, qui était très proche de Schaeffer, qui regarde les photos et qui dit, et on l'entend dans le film...
Un portrait de famille, il faut au moins qu'il y ait le père, non ?
Un portrait de famille, il faut au moins qu'il y ait le père, non ?
Sinon, c'est qu'une famille. Ce qu'on peut considérer comme un drame du service de la recherche, c'est justement le côté envahissant du père. Et alors là, on a presque l'impression que... Ah, si le blâme. Finalement, c'est un refuge facile de dire c'est Schaeffer le père, si on fait des conneries ou si on fait rien du tout, c'est de sa faute, on est en révolte ou on est complètement d'accord avec lui. Je veux dire, c'est un peu facile.
Alors, ce qu'il disait toujours, comme il avait beaucoup d'humour, c'est qu'il fallait vraiment...
Jacqueline Schaeffer.
...empêcher le formatage. Bon, son exigence était surtout que les gens se découvrent, se révèlent. C'était un éveilleur. Il avait eu des éveilleurs lui-même, mais je crois que c'était ça qu'il considérait comme sa mission. C'était ça. Et je crois qu'il avait la conscience de ça. C'est qu'il fallait qu'il permette aux gens de se révéler, de se réveiller... et de se trouver eux-mêmes. Ça, moi, c'est pour ça qu'on s'entendait très bien, parce que moi, j'avais aussi cette même fonction, si vous voulez, d'essayer d'amener les gens à découvrir leur monde interne et puis surtout de se débarrasser des habitudes et surtout des répétitions, parce qu'on passe son temps à répéter.
En tant que psychanalyste.
Ben évidemment, en tant que psychanalyste.
J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'étais un schaefferien ou un fils de Schaeffer, je ne sais pas comment dire.
Mais dans quel sens vous êtes schaefferien, Thierry Garrel ?
Ah ben, je suis schaefferien parce que cette question que je vous disais, que c'est une affaire sérieuse, la télévision, que le public, c'est-à-dire les citoyens, mérite le meilleur. L'audimat a fait penser qu'il fallait que ce soit le grand public instantané, le plus nombreux. La multiplication des chaînes a rendu ce paradigme totalement, totalement absurde, en fait, même s'il continue de fonctionner dans la tête de beaucoup des dirigeants actuels de la télévision publique. Et donc, organisons-nous pour, au contraire, avoir des ateliers de production de taille variée pour produire le meilleur au sens le plus ambitieux, le plus enrichissant, on pourrait dire, pour toute la gamme du public.
On dirait qu'à travers les années, et malgré sa disparition, il continue de vous impressionner, Pierre Schaeffer.
C'était quelqu'un d'extraordinairement intelligent, avec beaucoup d'humour, formidablement libre dans sa pensée. Je me souviens qu'il avait envie de sa liberté et de pousser ceux avec lesquels il travaillait ou qu'il faisait travailler, de leur permettre de se réaliser, mais il ne voulait pas s'attacher à eux. C'est-à-dire qu'il arrivait toujours à un moment à dire aux réalisateurs, aux chercheurs qui l'entouraient, que c'était le moment d'aller voir ailleurs. Ce à quoi il tenait beaucoup, c'est cette fameuse phrase qui vient de Cocteau, qui a été rapportée par Picasso, qui dit « Je trouve d'abord, je cherche ensuite ».
Et nous avançons dans l'avenir de dos, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, parce que nous ne pouvons avancer dans l'avenir qu'en nous appuyant des deux mains, comme un nageur qui fait la brasse à l'envers. Nous appuyons sur ce que nous savons, sur ce que nous connaissons, et ce qui nous arrive, il est derrière notre crâne. C'est pourquoi les trouvailles ont toujours surpris les trouveurs, et que cette image de l'avenir à reculons est une image tout à fait fondamentale et décrit en effet la recherche.
Au départ, j'étais, malheureusement pour moi, ingénieur des PTT. On n'appelait pas encore ça télécommunication. Et j'ai commencé par surveiller des lignes téléphoniques en Alsace. Et je m'ennuyais tellement, et je trouvais tellement terrible d'avoir fait Polytechnique, mais des hautes études, pour voir simplement si les fils électriques croisaient les fils téléphoniques à la distance réglementaire de 1m20 ou 1m50, je ne me rappelle plus, que j'ai failli devenir neurasthénique. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler d'une espèce de petit gang de camarades qui était en train de fabriquer une chose mal connue qu'on appelait la radio française. Ça s'appelait RF, comme République française. Ça s'appelait pas d'ailleurs encore RF. Ça s'appelait une petite annexe des PTT, que les PTT, administration pointilleuse et rétrograde, à ce moment-là en tout cas, abritaient parcimonieusement. C'était dans les années 35. Nous avions des 10 ans de retard sur les étrangers, au minimum. À ce moment-là, nous avions vraiment l'envie de faire une radio pas comme les autres. Nous avions envie d'avoir un matériel aussi bon que les autres, mais nous n'avions pas du tout envie de faire la radio américaine ou anglaise. Nous avions envie de faire une radio qui soit intelligente, qui soit dans la ligne de la culture, de la tradition française. Et je dois dire que comme nous étions radio d'État, alors que les postes privés nous avaient précédés, que les postes privés étaient carrément mercantiles, il faut bien dire que le combat de cette jeune équipe pour faire une radio française digne de ce nom était un combat extrêmement idéologique.
Pierre Schaeffer n'a pas 30 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Et cet ingénieur enthousiaste qui croit en la radio, en sa force et ses possibilités, va se mettre au service du régime de Vichy, comme toute une génération d'intellectuels catholiques. Et au service de Vichy, il fait tout de suite ce qu'il aime faire, de la radio. Karine Le Bay, femme de radio, historienne et co-directrice du livre Pierre Schaeffer, Les constructions impatientes.
Schaeffer va tout d'abord s'engager dans une aventure radiophonique, effectivement, qui va s'intituler Radio Jeunesse. Il va même commettre une série de portraits d'émissions à la gloire du maréchal, le maréchal Pétain étant incarné par le pianiste Alfred Cortot. Donc il y a vraiment cette croyance, cette foi même, dans ce projet qu'est la Révolution nationale. C'est important de signaler que Schaeffer n'est pas un homme politisé. C'est vraiment quelqu'un qui s'emploie à agir d'abord en tant que polytechnicien, donc boy scout, comme il c'est le polytechnicien boy scout. Ensuite, c'est l'homme effectivement du théâtre catholique, et ensuite effectivement aux côtés de ces intellectuels et de ces artistes qui s'engagent auprès du maréchal Pétain.
J'ai commencé, comme je savais, j'étais un peu de la radio. J'ai dit, on va parler à la jeunesse tous les jours. Et j'ai fait Radio Jeunesse avec quelques camarades qui parlaient à la jeunesse de la zone libre un quart d'heure à midi. Et ça me paraissait tout facile. Et puis, au bout de quelques jours, ça m'a paru très difficile parce qu'on n'avait rien à dire. Et alors, j'ai vite abandonné ce poste insensé, à me rendre compte que s'il y avait quelque chose à dire, c'était plutôt clandestin. Et j'ai fondé un mouvement culturel qui s'appelait Jeune France. Et nous avons décroché aussitôt au ministère de la Jeunesse les subventions pour essayer de faire vivoter tout ce monde-là, de sorte que à peu près tous les gens qui ont un nom dans la culture depuis cette époque, depuis 30 ans, ont plus ou moins émargé à Jeune France pendant les années d'occupation. J'ai aucune espèce de peine à dire qu'à Vichy en 40, dans l'ingénuité de notre désastre, nous n'avions aucune espèce d'espoir que ça s'arrange autrement. Tant mieux pour les gens courageux qui ont traversé la Manche, qui ont traversé la Méditerranée, qui se sont fait gaullistes du premier jour. Moi, je leur rends tout à fait honneur. Je dis que nous étions moins malins, mais que nous représentions l'immense multitude des Français mal informés, des Français paniqués, déboussolés, qui essayons de survivre. Et ce que nous avons fait à l'intérieur du pays pendant ces années-là était tout à fait nécessaire à la survie du pays.
C'est un homme qui croit au théâtre, qui croit à la musique, qui croit à l'action de la culture auprès de cette société qui est cette société effectivement prise dans les raids de cette occupation terrible. Donc à la fois entre un Vichy qui se radicalise très 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 rapidement. Hein. Faut quand même pas oublier que les premières lois antisémites, le premier statut de Vichy date d'octobre 40. Donc ça montre aussi une forme d'aveuglement de la part de Schaeffer qui monte l'association Jeune France. France en novembre 1941. Donc on lui reprochera après-guerre d'ailleurs, hein, c'est quand même un an après, on a encore Schaeffer qui est engagé auprès de Pétain. Et c'est là encore on voit effectivement l'indifférence totale de Schaeffer pour la chose politique. Et ça, c'est quand même gênant, forcément, c'est troublant, disons-nous.
7 octobre 1942, à Beaune, de nuit, dans la cour de l'hôtel des Ducs de Bourgogne. Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres.
Étoile de la mer, voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan des blés et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape, et voici votre voix sur cette lourde plaine, et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés.
En 1942, Pierre Schaeffer organise un stage à Beaune pour des jeunes comédiens où il fait des tentatives radiophoniques et invente, avec l'homme de théâtre Jacques Copeau, la radio des années qui vont suivre. C'est la première étape de ce qu'il envisage comme un conservatoire de la radio où on formerait les voix et les metteurs en ondes de demain.
Alors le stage de Beaune, bah là aussi c'est un rêve un petit peu fou. C'est donc dans cette idée d'un conservatoire de la radio, il arrive en plein Vichy à la radiodiffusion nationale qui vraiment s'abîme dans la collaboration, bah, qui est la rivale en quelque sorte pétainiste de Radio Paris qui elle est dirigée et qui a été créée par l'occupant allemand. Et donc en pleine occupation, il arrive à monter un concours. Il y a 1000 candidats pour participer effectivement à un stage où se formeront ces comédiens, ces techniciens de radio. Il y a d'ailleurs une figure qui vous est chère, Thomas, qui est Pierre Arnaud de Chassipoulet, qui va participer à ce stage. Et donc, Jacques Copeau est le rénovateur du théâtre, comme on dit, du théâtre français. Donc c'est dans le fief de Jacques Copeau que tout ça va se passer dans l'hôtel de Beaune. Donc il y a ces images qui existent où on voit là aussi la mise en place d'une architecture sonore, d'une idée où on peut s'approcher, s'éloigner du micro. Il faut savoir qu'à cette époque, ça n'existe pas. Ça existe au cinéma, mais ça n'existe pas. L'idée de créer des plans sonores, elle est initiée au stage de Beaune. Donc c'est vraiment l'origine, la matrice en quelque sorte, d'une autre création de Schaeffer, plus pérenne. Là, c'est vraiment un stage qui se tient durant l'été 42. Et le succès est tel de ce stage que Schaeffer va aussi réussir à convaincre les dirigeants de la radio d'installer un véritable studio d'essai au sein de la radiodiffusion nationale.
Tiens, voilà, Karine Lebaille en parlait. Pierre Arnaud de Chassipoulet. Il fut réalisateur de radio, notamment pour Pierre Dac. Et à 20 ans, il était régisseur du studio d'essai. Il s'en souvient dans cet entretien de 2009.
J'avais loué une chambre de bonne au 7e étage de l'immeuble qui est devant. Ce qui fait que quand par hasard, il y avait une émission qui s'enregistrait tard le soir, des fois, on me criait dans la cour en descendant parce que le speaker n'était pas arrivé. Il m'est arrivé un jour de descendre en pyjama, de me trouver dans le studio où il y avait 35 musiciens sous la direction de M. Plubicki, et on m'a tendu le papier pour passer l'annonce. J'ai dit, vous allez voir maintenant, vous allez entendre plutôt, Jeanne Aubuchet de Paul d'Elle et Arthur Honegger. Bon, à ce moment-là, j'ai entendu Lieskin qui laissait tomber ses mains de harpe, et il y avait un fou rire énorme derrière moi. J'ai passé mon annonce droit comme ça, et puis c'est tout.
Il y a un rapport d'activité de Schaeffer en 43 où il doit répondre et défendre ce studio d'essai. Et il répond « Qu'est-ce que le studio d'essai ?» Nous répondons avec la palisse. Le studio d'essai est un studio où l'on peut faire toutes sortes d'essais radiophoniques. Ceux-ci peuvent être des excursions aussi aventureuses que possible dans les domaines si passionnants et si mal connus du verbe, des sons et des bruits, des voix et des ambiances, du rythme, de la dynamique et des architectures sonores. Donc c'est avec ce plaidoyer pour la création radiophonique qui va s'installer, là aussi avec l'accord de la radio, dans un petit hôtel particulier qui est au 37 rue de l'Université. Il existe toujours, cet hôtel particulier, et il y a vraiment toute l'intelligentsia et tout le milieu culturel qui vient, artistique, et qui vient créer des formes, élaborer des nouveaux formats radiophoniques.
Et nous avons commencé là à découvrir ce que pouvait être un art radiophonique qui, contrairement à ce qu'on croyait, n'était pas un art particulièrement fait pour la technique, mais qui était un art qui consistait à parler sur un ton de confidence, sur un ton de sincérité, à un auditeur perdu dans le fond des foules, mais isolé, solitaire, qui n'était plus du tout le spectateur des salles de théâtre, le spectateur qu'on était obligé d'atteindre en criant par-dessus la rampe. Donc il ne fallait plus crier au micro, il fallait parler naturellement, il fallait poser sa voix, il fallait, si possible, donner les preuves de sa sincérité.
Et ce club d'essai a été le lieu où s'est prononcée, si j'ose dire, la première parole radiophonique libre, alors.
On a découvert que quand même la libération allait venir, qu'il fallait commencer à la préparer. Et à ce moment-là, Le Luc était fusillé, Devez avait été arrêté, mis en camp de concentration, ne devait pas revenir. Et nous avons pris la relève et nous avons préparé la libération de Paris, de sorte que nous avions des enregistrements dits l'honneur des poètes, les voix d'Aragon, des Luards, de Miendo. Nous avions quelques Marseillaises en réserve, et encore, et nous nous préparions avec un petit émetteur, que des gens comme Poulain, Jean-Louis, etc., aidés par des gens comme Châtenay, aidés par quelques vieux camarades de l'ORTF, mais pas beaucoup, il faut dire, mais quelques-uns, triés sur le volet, nous avons préparé cette libération de la radio, et nous avons fait partir, avant que les Allemands ne quittassent Paris, les premiers appels de libération, dès que Jean Guingbert, assisté de Pierre Crédès, nous en donnait l'ordre.
Il va, au fil des mois, en fait, opérer une sorte de bascule. Il y a aussi une bascule intime, qui est importante aussi, je pense, à signaler. Il perd son épouse, une épouse adorée, il la perd en 1941. Et ça va entraîner chez lui une vraie crise de conscience et une vraie crise de son engagement catholique. Et ça va jouer aussi dans ce décrochage de Vichy, dans l'idée que c'est ailleurs qu'il faut se battre maintenant. Et il faut se battre auprès des hommes, auprès des femmes qui se sont engagés très très tôt dans la résistance, et notamment des ingénieurs de la radio. Et donc Schaeffer, il rejoint effectivement ce qu'on appelait la chaîne du Vernois, qui était le nom d'un technicien de radio. Il rejoint effectivement cette chaîne en septembre 1943. Et cette chaîne, effectivement, c'est plein de réseaux de techniciens, d'anciens responsables de la radio, qui ils font des coups de main, ils récupèrent des émetteurs, ils en sabotent d'autres. Il y a vraiment, et puis c'est toute une jeunesse aussi, c'est vraiment des jeunes techniciens, et dont certains d'ailleurs vont payer le prix très lourd, parce qu'on est à la fin 43, et puis surtout en 44, il y a la milice, il y a la Gestapo, et effectivement, ils vont arrêter, ils vont décapiter cette chaîne du Vernois, alors que Schaeffer, lui, a décidé au sein du studio d'essai, il s'appelle Toby, donc son pseudonyme de Schaeffer est Toby, et à ce moment-là, effectivement, Il va commencer à monter un programme pour la libération des ondes, pour la libération, pour le moment où cette radio va être enfin libérée.
Alors cette production qu'il prépare, évidemment en toute discrétion, ça s'appelle le plan des senteurs.
C'est un programme, un véritable programme qui va servir à être diffusé au moment de la libération. Donc c'est 8 émissions qu'il imagine quotidiennes, qui seront donc entrecoupées de bulletins politiques et militaires, évidemment. Et puis, il y a des programmes musicaux, des pièces de théâtre, des émissions poétiques.
Mais quelle était l'idée justement ? C'était de se dire qu'il fallait reprendre la parole libre dès que c'était possible, informer librement, dire ce qui se passe ?
C'est évident. Et donc, on avait préparé des tas de choses. Et alors, les jours de la libération ont d'ailleurs été extraordinaires, puisque j'étais installé au standard téléphonique, parce que je recevais des coups de téléphone de tous les au moment de la libération. Donc, je recevais des coups de téléphone de tous les quartiers de Paris, et je répétais devant le micro qui était branché, en appuyant sur un bouton, je me branchais directement sur l'antenne, et je racontais ce qu'on m'avait raconté.
Dès le 13 août, La police, chose étrange, fait grève. Les trains, faute de cheminots, s'arrêtent, plus de métro. Le samedi 19 août à 10h du matin, 3000 agents en civil, mais en armes, massés devant le parvis de Notre-Dame, se présentent en bon ordre devant la préfecture de police. Ils l'occupent et hissent sur la flèche de leur citadelle le premier drapeau français libéré à Paris.
Paris n'a pas été long à apprendre comment on construit des barricades. La population parisienne accueillera demain le front haut, l'armée française et les armées alliées.
Ainsi s'exprimait quelques jours plus tard le commissaire délégué général du gouvernement provisoire de la République dans une déclaration qui donnait tout son sens à l'insurrection. Le dimanche soir, alors que les Allemands ont saboté tous les émetteurs, la radiodiffusion française libérée lance sur des antennes de fortune son premier indicatif.
Ici, radiodiffusion de la nation française.
On voit les rapports à ce moment-là, les lettres, les courriers qu'il écrit. Il écrit au FFI, au patron des FFI, le colonel Rolle-Tanguy. Il pond des notes tout le temps, il organise des réunions. Il y a 100 personnes qui sont enfermées au studio d'essai, dans ces deux étages-là d'hôtels particuliers. Alors, il ronge son frein parce qu'effectivement, au départ, la première émission de la Radio Libérée, c'est le 20 août. Donc, il y a effectivement la voix de Pierre Crenès qui lance ce fameux « Ici, radiodiffusion de la nation française », donc voilà, avec tout le ton de l'époque. Donc, il y a des trompettes, il y a la Marseillaise. Et puis, effectivement, le 25 août, quand Leclerc arrive à l'hôtel de ville avec le général de Gaulle, eh bien, cette petite radio qui est le studio d'essai, elle n'a pas beaucoup d'émetteurs, hein, elle n'est pas entendue dans beaucoup d'endroits à Paris, mais c'est elle qui va enregistrer le général de Gaulle qui proclame
« Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. »
Mais Paris libéré.
À la libération, Pierre Schaeffer va se retrouver un petit peu seul, c'est-à-dire qu'il aura pas vraiment, il va pas profiter d'une forme de reconnaissance après cet accompagnement de la libération de Paris et le plan qu'il avait préparé. C'est Jean Guignebert, son ancien supérieur dans la résistance, qui devient un temps ministre de l'Information, puis Pierre-Henri Tedjène. Il est ni gaulliste ni communiste, il est un peu nulle part à ce moment-là, Pierre Schaeffer.
C'est un homme qui va toujours déranger le pouvoir politique. C'est un empêcheur de tourner en rond. C'est un homme qui ne supporte pas l'autorité. Il dérange, hein, tout simplement. Il dérange. Il est trop près aussi de cette action de la radio avec des résistants qui eux aussi commencent à déranger. C'est une véritable remise au pas de la radio. Et puis c'est la nouvelle fiction gaullienne aussi, hein, de la réconciliation nationale. Tout le monde était résistant. Personne n'était collaborateur. Et ben, ces témoins-là, qui ne sont pas des politiques et des fins politiques comme Jean Guignebert ou Pierre-Henri Tedjène, ben, vont être écartés, tout simplement. Donc, Schaeffer est écarté très vite. On l'envoie aux États-Unis et on lui dit ciao, bye bye, quoi, en quelque sorte. Donc, voilà, il est écarté. Et en plus, non seulement il est écarté, mais en plus, on va lui reprocher d'avoir été, justement, et là, les termes vont arriver, non plus maréchaliste, mais pétainiste. Et ce procès fait à Schaeffer, il va très mal le vivre, évidemment.
Il y a là des jeunes gens épatants. Ils ont fait le coup de feu près de la place Vendôme, attaquant un blocos allemand avec une mitraillette et quatre grenades. Puis, tandis que la journée s'écoulait, ils ont récolté de plus en plus d'armes, des mitraillettes allemandes, toute espèce de choses. Et il y a là aussi un jeune sergent-chef qui est entré tout seul et le premier au ministère de la Marine. C'est lui qui a été le premier à rentrer dans le ministère de la Marine et qui a préparé ainsi le grand coup des Tuileries, le nettoyage des Tuileries. Et maintenant, pour terminer cette agréable soirée dans Paris libéré, ils vont tous chanter en chœur.
À Cap-Bras, on s'épine de fantaisie, maintenant à mon matin. Il dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. Madelon, Madelon, Madelon.
Pour le FIP, hip hip hip.
Ouah!
Hip hip.
Ouah!
Hip hip.
Ouah!
Après-guerre, malgré son limogeage, Pierre Schaeffer démarre une période intense où se succèdent les missions, notamment à l'international, à New York donc, mais aussi au Canada par exemple. Il mène aussi ses premières recherches sur la musique concrète, composée d'objets sonores, captés et transformés. Il rêvait d'une symphonie des bruits. En 1949, il signe une de ses grandes œuvres, Symphonie pour un homme seul, signée avec Pierre Henry. En 1951, il crée le groupe de recherche de musique concrète, qui sera transformé plus tard en groupe de recherche musicale, le GRM. Schaeffer poursuit toujours ses missions pour la radio, qu'il envoie à Dakar, au Sénégal, en 1952. Il commence alors à s'intéresser aux radios africaines et contribue à créer la Société des radios de la France d'outre-mer, la SORAFOM, dont il prend la tête officiellement en 1956. Thomas Léris est historien, spécialiste de l'histoire de la SORAFOM.
Ce que cherche à faire Pierre Schaeffer, lui, c'est à uniformiser le fonctionnement des stations pour mettre en œuvre une radio qui serait plus proprement africaine, qui reflèterait plus, en tout cas, le point de vue qu'il a et que certes d'autres personnes ont aussi sur ce que pourrait être de vraies radios africaines. Et son travail, jusqu'en 1957, il le redit à plusieurs fois dans les sources, c'est de centraliser le fonctionnement de ces stations pour les rendre plus uniformes et pour qu'elles aient un état d'esprit qui soit uniforme et qui soit plus adapté aux conditions africaines de l'époque telles que lui, il se les représentait. Voilà. Et ce mouvement de centralisation, il lui a donné un nom qui ressort souvent dans les archives, c'est la sorafomisation. Voilà, c'est-à-dire une fois qu'il a fondé la SORAFOM, en janvier 56, elle n'est pas tout de suite fondée, il va utiliser cette expression en disant il faut sorafomiser les stations existantes, ou en tout cas faire que les nouvelles stations qui vont être fondées correspondent aux objectifs de la société tels que lui et son équipe les ont définis.
La nouvelle station de Radio-Soudan a été inaugurée le mercredi 4 septembre par M. Modibo Keïta, secrétaire d'État à la France d'Outre-mer, et sous la présidence de M. Pierre Schaeffer, directeur général de la SORAFOM, Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer.
Radio-Soudan, le 6 septembre 1957.
Après les cérémonies d'usage, M. Pierre Schaeffer, très écouté, accueillit les personnalités en ces termes.
Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le président, messieurs les parlementaires et membres du gouvernement. Si je puis me réjouir d'inaugurer Radio-Soudan sous des auspices aussi heureux, et dans des délais aussi brefs, il ne m'appartient pas de dire que l'énergie, une poignée de mes collaborateurs, dure déployée pour y parvenir.
Alors Schaeffer, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne connaît pas l'Afrique quand il commence à s'y intéresser en 1952-1953. Et Schaeffer, il va considérer justement que les stations qui vivent en Afrique doivent émettre principalement pour l'essentiel de la population africaine, c'est-à-dire des gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui ne comprennent pas le français. Donc, son objectif, ça va être d'africaniser les antennes, à la fois par le personnel et à la fois par les programmes. Alors, ça va passer par l'emploi de plus en plus important des langues africaines. Ça va passer aussi par le recrutement d'un personnel africain et par la formation d'un personnel africain. Et pour ça, dès janvier 1955, Schaeffer va monter le studio école, qui va devenir le studio école de Maison Lafitte, c'est-à-dire une école de formation au métier de la radio, qui va avoir pour but de former ses personnels africains à la création de grilles de programmes, la mise en œuvre d'émissions de radiodiffusion, la gestion aussi et l'entretien du matériel, la gestion des stations. C'était une école assez complète. Et ça, le but, dans la sorafomisation dont je parlais, le but, c'était vraiment ça. C'était de dégager du temps sur les antennes africaines pour pouvoir créer des programmes qui soient spécifiquement adaptés aux auditoires africains.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans l'aventure de la SORAFOM, Thomas Léris, au sens où on comprend qu'il y a une volonté d'émancipation, de donner la parole, une volonté de différenciation aussi? D'un côté, et de l'autre, Jacques Foccart, qui est l'homme de la France-Afrique, qui n'est pas, on peut pas dire que ce soit le premier anticolonial du genre, était très satisfait de cette mise en place, de cette structuration. Est-ce qu'il n'y a pas deux manières de lire finalement l'aventure de la SORAFOM?
Si, tout à fait. Il y a vraiment deux manières. Et voilà, c'est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Schaeffer lui-même en est conscient. Quand en 1979, dans les antennes de Jéricho, il parle de son travail à la SORAFOM, il dit que c'est une poétique néocoloniale. Enfin, voilà, il utilise cette expression là-dessus pour dire qu'il en est bien conscient. Et d'autres stagiaires dont j'ai pu lire ou écouter les témoignages, finalement, on était quand même un outil du gouvernement, on était un outil néocolonial. Après, c'est ça. D'autres gens, d'autres stagiaires disent non, non, nous, le travail qu'on a fait, c'était de l'émancipation. On était au service de gens qui devaient apprendre à faire la radio par eux-mêmes. Donc, le travail qu'on a fait est globalement positif. Mais effectivement, hein, y a cette vraie question qui se pose dans ce travail, voilà, de la Sorafom et de l'Ocora. Voilà. Après, moi, ce que j'en ai un peu déduit, c'est que, comme avec la BBC, dans l'emprise britannique, en Afrique, eh bien, on assiste un peu à une espèce de provincialisation de la culture française en Afrique. C'est-à-dire, comme on a affaire à un espace francophone en cours de formation, la radio est un outil de développement de la francophonie, et à l'intérieur, en fait, de ce monde francophone, bah, la radio, elle a participé à faire de la culture française une des cultures de la francophonie, et pas la culture de la francophonie.
Il était très concret. Pierre Schaeffer était un intellectuel, évidemment, mais il n'aimait rien tant que penser avec ses mains. Enfin, j'ai trouvé cette expression.
Ben, c'était Faber et Sapiens, les deux.
Jacqueline Schaeffer.
Ça le définissait très bien, c'est le livre qu'il a écrit. Mais c'était comme ça. Il avait besoin de faire, il avait besoin de. C'était un pédagogue, c'était quelqu'un qui avait vraiment envie lui-même d'apprendre, parce que moi je l'ai vu aller à des séminaires de. Quand on était en vacances, il avait des séminaires de musique, par exemple de physique quantique. Je l'ai vu aller écouter. Il enseignait et en même temps il apprenait. C'est-à-dire vraiment, c'était une roue complète là, vous voyez. Il ne lâchait pas les choses, il ne lâchait pas la connaissance. Il en avait vraiment besoin.
Est-ce que vous pensez que Pierre Schaeffer a manqué de reconnaissance à un moment ?
Ah oui, sûrement. Ouais. Sûrement. Je crois même qu'on a tout fait pour l'effacer. Vous savez que quand il a quand même contribué à créer l'INA, ben c'est pas lui qu'on a mis à la tête, évidemment. Parce que je pense que Schaeffer, il y avait beaucoup trop de personnalité, de caractère. Il n'était pas malléable. Et politiquement, il faut que les gens soient malléables. C'est évident. Donc, vous savez, on disait que c'était un interdisciplinaire et on s'est amusé à dire qu'il était un inter-indisciplinaire. C'était un libertaire, un grand libertaire.
Ah, à ce point-là, un
libertaire. Ah oui, à ce point-là, vraiment, je dirais.
Marc Jacquin, éditeur et formateur, fondateur de Phonurgia Nova, une structure parrainée par Pierre Schaeffer dès ses débuts dans les années 80.
C'était un maître paradoxal, comme les vrais maîtres. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de doxa, il n'avait pas de doctrine à transmettre. Ce qu'il a pu transmettre, c'est un état de vigilance, un état d'inquiétude, en même temps de doute permanent. Je me souviens qu'il avait pris à rebours le public du Festival FM de La Rochelle, en 85. Il était invité à un débat sur la création en devenir, qui était animé par Claude Hudelot. Il y avait quelques représentants des radios libres, il y avait Ici et Maintenant, il devait y avoir Nova, et Schaeffer était là comme vétéran d'une histoire presque légendaire. Et Schaeffer avait mis tout le monde par terre et tout le monde contre lui en expliquant que la création radiophonique, c'est pas un truc si sophistiqué que vous imaginez, ça nécessite pas d'immenses moyens, parce que déjà se poser la question des moyens, comment on va financer tout ça. Schaeffer disait, mais allez dans un conservatoire, assister à une classe de violoncelle, vous verrez, c'est puissamment dramatique. Alors évidemment, c'était pas le discours que vous voulez entendre. Donc c'est pour dire que c'était un maître paradoxal qui vous mettait à l'épreuve. Et le lendemain, dans Libération, je me souviens du papier, on pouvait retrouver la date, c'était en juin, donc 85, c'était Schaeffer, le retour du vieux revolver.
Le compositeur François Bell a dirigé pendant 30 ans le GRM, le groupe de recherche musicale, fondé par Schaeffer. En 2005, il était enregistré par Marc Jacquin et se souvenait de la disparition de Pierre Schaeffer et de ses circonstances surnaturelles.
Et j'ai une anecdote qui a rendu son départ encore plus pathétique pour moi. J'étais en train de composer une pièce comme chaque mois d'août et je venais juste de la terminer. Et puis j'ai dû commettre une erreur tout d'un coup, voulant réécouter comme ça une impulsion, voulant réécouter ce travail que je venais de terminer qui s'appelait Invention. Tout d'un coup, je m'aperçois que ce travail se trouve défiguré par la perte d'un son qui régnait tout au long de la pièce et que j'avais dû écraser et qui avait disparu et qui rendait finalement la musique complètement boiteuse, puisque ce son qui régnait et qui revenait très très souvent ici et là, n'était plus là. Et j'étais complètement abasourdi, atterré, en me demandant qu'est-ce que j'allais bien faire. Et sur ces entrefaites, le téléphone sonne et on m'apprend le décès de Schiffer. Eh bien, j'ai toujours évidemment associé ces deux disparitions et je me suis dit, je comprends où est passé mon son. Il est parti avec mon son.
À Pierre Schiffer, vous avez affronté un certain nombre de missions. Vous êtes un scientifique, vous êtes un musicien, vous êtes un chercheur, vous êtes un créateur, vous êtes un romancier. Et en fait, si l'on fait le compte, vous êtes un angoissé.
Je pense que sans se vanter de trop d'angoisse, parce que c'est une présence un peu indésirable, on s'en passerait volontiers. Je pense que il n'y aurait qu'une raison de vivre dans la condition humaine. Et surtout quand on est placé ou quand on a prétendu y jouer un certain rôle, sans être dans une profonde angoisse. Je pense que l'angoisse, c'est l'existence même. Je pense que l'homme qui va mourir, et qui l'admet si difficilement et si tardivement, est un homme qui ne pense qu'à se perpétuer, qui ne pense qu'à un destin éternel. Je pense que l'homme qui rêve de paix, qui rêve de fraternité, et reste une bête féroce. Je pense que les plus charitables d'entre nous sont encore des cannibales. Je pense que les relations d'amour que nous aimons porter au nu, dont nous aimons avoir le reflet le plus flatteur, sont souvent des relations les plus égoïstes, que chacun vit de son prochain. Je pense finalement que la contradiction dont vous parliez ne peut se résoudre que dans le fait qu'on l'admet, qu'on la vit, qu'on accepte cette croix, qui rappelait à chaque page de cet évangile, qui est pour moi quand même l'écrit le plus dur, en même temps que le plus consolant et le plus croyable, en même temps qu'incroyable, que je connaisse. Et, disons, si je ne faisais pas allusion à l'évangile du Christ pour finir, je manquerais à une vérité essentielle.
Pierre Schiffer, vous êtes un poteau indicateur?
Non, c'est beaucoup dire, disons qu'il porte un certain nombre d'indications contradictoires en plusieurs langues, et qu'il appartient aux passants de choisir sa direction.
Parce qu'il y a cette définition du poteau indicateur que vous connaissez bien, un poteau indicateur reste dans son rôle en ne faisant jamais la route lui-même.
Mais je crois, si vous voulez, que cette phrase merveilleuse de Michaud, « Je n'en suis pas un bon disciple », que j'ai souvent voulu me substituer à autrui, non seulement pour indiquer une voie, mais pour faire un bout de route avec lui, et que probablement c'est là mon défaut.
Nous sommes arrivés au bout de cet entretien, nous avons même passé le cap fatidique des 18 heures. Merci Pierre Schiffer.
C'était toute une vie, Pierre Schiffer, croire aux ondes. Merci à Chérif Kaznadar, Robert Cahen, Thierry Garel, Marc Jacquin, Karine Lebail, Thomas Léris et bien entendu Jacqueline et Justine Schiffer. Les compositions de Pierre Schiffer qu'on a entendues sont Symphonie pour un homme seul, Le Trièdre fertile et Bilude. Archivina, Ingrid Lecointe avec Mylène Touchet. Documentation, Annie Signoret. Dans les archives, Pierre Schiffer répond à Émile Noël, Jacques Chancel et Claude Villers. Prise de son reportage, Michael Simon. Prise de son studio, Alexandre Dang, Jean-Guilain Meige, Dali Yaha. Mixage, Antoine Viossa. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Thomas Baumgartner, réalisé par Gaël Gillon.